Merci beaucoup, Rolf. Magnifique, ça fonctionne. Je vais commencer par boire. Magnifique, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le message sera donc sur Jonas, les chapitres 1 et 2. Et puis, Johan vous parlera des chapitres 3 et 4 pour faire une mini-série sur ce livre de ce prophète un peu spécial, atypique. Et ce prophète qui nous prouve que pour effectuer sa mission, Dieu choisit le plus incapable possible. Alors à 10 ans, je pouvais ressembler quelquefois à ce petit garçon que vous avez à l'image, parce que j'avais un privilège auquel je tenais beaucoup, que j'aimais beaucoup, que je trouvais autant incroyable que tout à fait normal, c'est que les soirs de week-end, je pouvais choisir un film à regarder avec mes parents sans mes petits frères et sœurs, parce que j'ai un certain écart avec eux. Et je trouvais du coup ça super incroyable d'avoir un moment que avec eux, mais à la fois complètement normal. Un moment seul avec mes parents, sans ces inférieurs de petits frères et sœurs, il n'y avait rien de spécial non plus. Mais je chérissais beaucoup ce privilège, et ça arrivait parfois que pour de multiples raisons tout à fait normales dans une vie de famille, les soirées s'étendaient et je devais aller me coucher en même temps que mes petits frères et sœurs. Et je pouvais sûrement être frustré comme ce petit garçon, et je trouvais ça complètement injuste de me dire « mais je suis tellement mieux, tellement plus grand, tellement plus vieux, et je vais en même temps que me coucher ». Le grand frère perdait ses privilèges et je trouvais ça injuste et j'étais frustré, envie de me rebeller contre les parents despotiques qui sont à l'arrière là-bas. Bisous papa et maman. Et pourquoi je parle de cette petite histoire? Parce que en fait c'est exactement le même trait de caractère qu'on retrouve dans ces deux premiers chapitres, en tout cas dans ce premier chapitre du livre de Jonas. Ce prophète qui a le privilège, non pas d'être plus vieux que ses frères et sœurs, bien que je ne le sache pas, mais qui a le privilège de faire partie du peuple d'Israël, du peuple élu, et d'être donc juste, d'avoir droit à la grâce de Dieu. En tout cas, c'était ses convictions. La grâce de Dieu s'étendait pas plus loin que le peuple d'Israël. Et donc, il avait ce privilège dont il était conscient, qu'il trouvait donc autant incroyable que tout à fait normal. Et au début de ce livre, je ne vous apprends rien si je vous dis que Dieu l'appelle et lui dit « Va prévenir la ville étrangère et pécheresse de Ninive ». Et alors là, Jonas, il pète un câble exactement comme moi à 10 ans, et il ressemble à ce petit garçon à l'écran, et il se frustre et il trouve ça injuste. Et l'élu, tout comme le grand frère, perd son privilège spécial qu'il avait, qu'il chérissait, parce qu'il comprend que la grâce de Dieu pourrait s'étendre plus loin que lui, que le peuple d'Israël, et pourrait aller jusqu'à une ville étrangère, une ville pécheresse, et s'étendre donc beaucoup plus loin. Pourquoi cette petite intro? Parce que ça introduit bien le caractère un peu spécial de ce prophète. Quand on lit les livres des prophètes, si on regarde la série un peu, les personnages principaux à chaque fois, je me dis, c'est pas possible. Sur celui-là, le rôle principal, il était en vacances, il n'était pas disponible, il a fait une erreur de casting, Dieu, c'est pas possible. Il veut sauver une ville étrangère, et il prend le prophète le plus nationaliste qu'on trouve dans toute cette série de prophètes. Et son caractère, ses réactions le rendent un peu dérisoire, un peu divertissant. En tout cas, moi, il me fait un peu sourire quand on lit les premières réactions qu'on va lire tout de suite en lisant le chapitre 1. Je vous rappelle juste donc le thème du message. Pour effectuer sa mission, Dieu choisit le plus incapable. Et on va voir cet entêtement et cette incapacité de Jonas dans le chapitre 1. Qu'on va lire ensemble. « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. Eh quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux. Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, fais-nous savoir qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? Jonas leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de sa présence, de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma, alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Voilà ce qu'il en est pour le chapitre 1. Et on va voir cet appel de l'incapable, tout à fait calculé, de Dieu en trois points. Le premier point, Dieu appelle l'incapable, le non qualifié, par amour et non pas par humour, bien que quand on lit les trois premiers versets, moi je me dis c'est une blague, c'est pas possible. L'Éternel adressa la parole à Jonas, normal, il appelle son prophète. Chapitre 3, Jonas se mit en route, normal, c'est un prophète, pour s'enfuir à Tarsis. Normal, c'est Jonas, on va le comprendre. Mais c'est quand même spécial et presque ironique de voir qu'il choisit la direction précisément inverse de l'appel de Dieu. Directement, on n'en sait encore rien sur lui, on ne sait pas quelles sont ses motivations, mais on comprend déjà qu'il va être dans le conflit avec Dieu et qu'il c'est un prophète pas comme les autres. Alors il appelle ce prophète incapable d'accomplir cette mission tout de suite, par amour, parce qu'il veut le faire grandir, il veut cheminer avec lui. Premièrement, il veut faire évoluer ses convictions fermées. Ce prophète, je l'ai dit en introduction, il était convaincu que Dieu se limitait à son peuple, la grâce de Dieu se limiterait au peuple d'Israël, aux élus, au peuple élu. Et Dieu veut lui faire comprendre, le faire cheminer, que cette grâce pourrait bien être étendue un peu plus loin. Et pour faire cheminer son prophète dans ses convictions, eh ben, il lui donne cette mission, trop haute pour lui, en tout cas c'est ce qu'on croit, c'est ce que moi j'aurais dit en lisant ce premier chapitre. Et en fait, c'est pour faire cheminer son propre prophète et non pas pour accomplir la mission le plus simplement possible. Il cherche donc à faire évoluer ses convictions et aussi à l'accompagner pour pouvoir finalement le qualifier. Et dans ce premier chapitre, on voit le comportement des marins qui est un peu spécial. Parce que dans ce bateau, il y a donc Jonas qui se croit, ou qui est en tout cas élu, qui fait partie du peuple d'Israël, et ses marins, qu'on pourrait penser païens, en tout cas on nous dit qu'ils ont d'autres dieux. Et en fait, ils ont un comportement beaucoup plus en vogue avec ce que Dieu voudrait. On sent qu'il y a une crainte de l'Éternel bien plus présente que Jonas. Jonas est carrément inexistant chez lui puisqu'il se cache et il fuit. On voit donc le comportement des marins, le capitaine d'abord qui l'appelle, mets-toi debout et prie ton Dieu, peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. On sent déjà une certaine crainte d'un Dieu possible, bien que le capitaine ne connaisse pas, peut-être pas le Dieu d'Israël, mais il y a une certaine crainte que Jonas n'a pas du tout. Et au verset 13, ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte. Ils veulent pas faire le mal, ils veulent pas jeter Jonas, bien que c'est ce qu'il leur a dit de faire. Et finalement, quand ils le font, au verset 14, ils crièrent à l'Éternel et dirent « Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Au verset 16, alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel, quand ils ont vu que la mer se calma, ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Il y a une certaine ironie dans ces deux comportements, où on voit le prophète de Dieu qui fait absolument n'importe quoi, et les marins qui sont censés adorer d'autres dieux et faire n'importe quoi, eux, qui ont une crainte dès le début et qui finissent carrément par craindre l'Éternel pour de vrai, lui offrir un sacrifice et s'engager avec lui. Et ça fait partie de cet accompagnement où Dieu veut montrer à Jonas, oui, je veux étendre ma grâce, regarde, regarde comme c'est possible. Il l'accompagne donc et il va chercher à le qualifier, il l'accompagne jusqu'au chapitre 2 où il y aura dans ce grand poisson qui a sauvé la vie à Jonas, cette prière de repentance, tournant de ce livre, ou en tout cas du passage de ce matin, qui va qualifier Jonas et où Jonas dira dans les deux versets qui encadrent cette prière, au verset 3, « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. » Au verset 10, « Mais moi, Seigneur, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » Jonas a cheminé, Jonas a changé parce que Dieu l'a appelé à quelque chose pour lequel il n'était pas qualifié, pour lequel il était incapable, et il doit donc trouver sa force en Dieu, et on voit cette dépendance à Dieu qui est là regagnée dans cette prière du chapitre 2. Et on verra même qu'il finira par le qualifier. Jonas ne se sera pas juste repenti, mais il finira par se lever et aller accomplir sa mission juste après le passage de ce matin, au début du chapitre 3. Les trois premiers versets, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes, « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. La suite appartient à Johan la semaine prochaine, mais ces trois versets nous montrent, c'est exactement le même début que le verset 1, sauf que cette fois Jonas est qualifié, cette fois Jonas est prêt à accomplir la mission que Dieu a pour lui. Moi, j'aurais jamais prédestiné Jonas à réussir cette mission. Si je devais faire accomplir cette mission et me dire « Ok, comment sauver Ninive ?» Jonas, c'est le dernier que j'aurais choisi. Mais l'amour de Dieu pour Jonas, et même pour Ninive finalement, vous le verrez la semaine prochaine, mais vous le savez déjà, l'amour de Dieu se manifeste jusque-là. Pour effectuer sa mission, Dieu choisit le plus incapable, par amour, pour le faire cheminer, pour l'accompagner et finalement le qualifier. C'est le premier point. Le deuxième point de ce matin, c'est que l'incapable, le non qualifié, est libre. On est libre d'accepter ou non son amour, on est libre d'accepter ou non son appel, sa mission. Et on le voit très bien dans ces premiers chapitres de Jonas, où Dieu a la maîtrise totale sur tous les éléments. Il a la maîtrise sur la ville, s'il veut la détruire dans 40 jours, il le fait. Il a la maîtrise sur la tempête, il la déclenche, il la calme. Il a la maîtrise sur le poisson, va chercher Jonas, recrache Jonas. Il a la maîtrise même sur un ricin, un arbre, à la fin du livre de Jonas, qu'il fait pousser en une nuit. Et le jour d'après, il envoie un ver tuer cet arbre. Il a la maîtrise parfaite sur toute sa création, sauf sur l'homme, sauf sur notre amour pour lui. Il n'a aucune maîtrise là-dessus et nous sommes libres d'accepter son amour, nous sommes libres de refuser son appel. Et Jonas l'avait bien compris, qu'il était libre de fuir, il l'a fait. Et c'est le seul personnage dans cette histoire, c'est la seule chose au milieu de tous ces éléments maîtrisés par Dieu, qui fait ce qu'il veut et qui est libre. Et c'est intéressant de mettre ça en écho avec un enseignement du Nouveau Testament, après le passage de Jésus sur terre. Et c'est Paul qui enseigne aux Galates, dans Galates 5, 13, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Et il ajoutera même après, dans les versets suivants, que l'église de Galates qui voulait vivre encore selon les lois d'avant, et Paul qui les appelle à vivre selon la relation qu'ils ont avec Dieu, leur dit que si vraiment il y a une loi qui doit rester, un commandement auquel ils doivent obéir, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est intéressant de se dire, mais si Jonas avait eu cet enseignement entre les mains, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je suis libre, mais je dois choisir de faire la volonté de Dieu et plus la mienne. Je dois aimer mon prochain comme moi-même, même si malheureusement mon prochain est ninivite. Et Dieu nous laisse libres. Et c'est important de se dire, j'ai pas besoin d'être qualifié, j'ai pas besoin d'être capable, j'ai pas besoin d'être bon, de prouver par mes actes que Dieu peut compter sur moi. Dieu aime notre incapacité, Dieu aime là où on est mauvais, pour pouvoir se glorifier à travers ça. On le voit à travers Jonas, il se glorifie à travers son incapacité à aller parler à Ninive, et il le qualifie finalement pour qu'il y aille. Mais nous sommes incapables, mais nous devons décider de le suivre et de faire sa volonté et pas la nôtre. Par amour, Dieu nous laisse libres, même s'il a un plan parfait. Il saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous, mais il nous laisse libres de choisir. Soyons conscients de cette liberté et que ça soit une nouvelle décision à renouveler sans cesse. Je ne suis pas seul. Dieu me qualifie, Dieu est avec moi. Mais je veux vivre selon sa volonté et je dois décider d'obéir avant même qu'il me qualifie. Et c'est un pas de foi de partir à Ninive sans même avoir envie, sans même se sentir capable, sans même être prêt à dépasser les peurs que ça engendre. Et nous le verrons dans le troisième et dernier point. Pour effectuer sa mission, Dieu choisit le plus incapable, mais le laisse libre de faire sa volonté ou non. Et nous avons le troisième point qui est une comparaison intéressante qui est faite en Matthieu 12, 38 entre la trajectoire de Jonas et celle de Jésus. En Matthieu 12, 38, c'est Jésus lui-même qui compare les deux trajectoires et qui dit en effet, les trois jours de Jonas, salvateur dans le poisson, ont sauvé Ninive. Mais ce n'est pas Jonas que vous avez devant vous, c'est Jésus et les trois jours. De la mort de Jésus, de la victoire de Jésus, sauveront bien plus que Ninive, puisque vous avez bien plus que Jonas devant vous. Et on va entrer dans cette comparaison en commençant donc par étudier la trajectoire de Jonas. Et ce thème de la descente et de l'entêtement qu'il y a dans ce chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, j'en ai relevé quelques parties où Jonas cherche à s'éloigner de l'Éternel et à la fois il y a cette descente dans son entêtement. Ces deux côtés qui peuvent faire penser à une sorte de descente aux enfers le plus loin possible de Dieu et à la fois ce thème de la descente. Il descendit au port de Jaffa, il descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Il s'enfuyait loin de la présence de l'Éternel et finalement, ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Et il termine donc sa descente au fond des flots, là où naissent les montagnes. Il y a donc ce thème de la descente, de l'entêtement, et comment on passe de ce prophète entêté à un prophète qui se lèvera pour finalement aller à Ninive. Eh bien, il y a ces trois jours, salvateur dans le poisson, où Dieu le sauve, et lui-même, il se repent, cette réelle conversion de Jonas, victoire sur sa mort intérieure, et je vous propose de la lire au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas resta dans le poisson, dans le ventre du poisson. Dans le poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. « Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des mers, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. » Je me disais, je suis chassé de devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m'en serrait. Tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, et c'est surtout cette prière de repentance salvatrice qui est le centre et non pas la durée, mais c'est par cette repentance réelle, ce cri enfin de ses entrailles à Jonas, dans les entrailles du poisson en l'occurrence, qui viennent le sauver, puisqu'il était complètement à l'opposé de ce que Dieu voulait pour lui, complètement entêté, et c'est ces trois jours de victoire sur sa propre mort intérieure, la mort de sa foi, il n'avait pas confiance d'y aller avec Dieu. Sa foi était comme morte et il y a cette victoire qui le sauve et le qualifie pour sa mission. Il n'était pas d'accord de payer le prix de l'humiliation à Ninive, Et loin de moi l'idée de lui jeter la pierre. Forcément, lui, il se disait, soit il ne m'écoute pas, et Ninive était réputée pour très maltraiter ses prisonniers, donc il y avait de quoi flipper un peu. Soit il m'écoute, et c'est encore pire, ces pêcheurs étrangers, ils sont sauvés. Il n'avait pas du tout envie de payer le prix de l'humiliation pour suivre Dieu. Et finalement, c'est ces 3 jours qui vont sauver cette trajectoire, sauver cette foi perdue et le qualifier pour y aller. Et de l'autre côté, on a la trajectoire de Jésus qui, au lieu de cet entêtement profond et cette volonté propre de faire ce que moi je veux, comme je veux, et que je sais mieux ce qui est bon pour moi que Dieu, eh bien, on a la vie de Jésus, vie parfaite selon Dieu, selon son Père. Le Dieu qui vient nous montrer comment un humain devrait vivre sur terre, ou qu'est-ce que c'est la vie d'un humain parfait. Et pourtant, il finit quand même par mourir et passer par ces 3 jours. Mais alors, ces 3 jours ne sont pas pour sauver sa vie qui était déjà parfaite, mais ce n'est pas la victoire sur sa mort intérieure, mais bien sur la mort tout court. Et c'est donc 3 jours qui nous sauvent. Comme dans Matthieu 12, 38, il est dit, les 3 jours de Jonas sauvent Ninive. Et les 3 jours de Jésus nous sauvent tous, ou en tout cas sauvent tous ceux qui croient, car ils seront sauvés et qualifiés pour la mission que Dieu leur confie. C'est merveilleux de se dire que la vie de Jonas, c'est un peu la vie qui nous rassure en nous disant, bon, au moins, normalement, je ne serai jamais aussi pire que lui. Et en fait, même si t'es pas autant pire que lui, de toute façon, personne n'atteindra la vie de Jésus. Et pourtant, c'est la seule qui te sauverait toi-même, qui nous sauverait nous-mêmes. Donc chacun a besoin de la vie de Jésus, et non pas de ressembler le moins possible à Jonas, mais chacun a besoin du sacrifice de Jésus à la croix pour avoir le droit à être sauvé, justifié et finalement qualifié pour sa mission. Dieu a rejoint Jonas jusqu'au fond de l'eau pour le qualifier. Dans le poisson, tout a été effacé. Dieu refait équipe avec Jonas pour partir à Ninive, pour partir pour sa mission, pour obéir à Dieu, pour vivre selon ce que Dieu veut pour lui. Jésus nous a tous rejoints jusqu'au fond de n'importe lequel de nos manquements. À la croix, tout est effacé. Dieu veut faire équipe avec chacun d'entre nous. Tout comme Jonas dans ce poisson, il y a cette conversion, ce changement total de direction, d'entêter à finalement accepter la mission horrible qui lui est demandée pour lui, et bien nous, par la même occasion, à la croix, c'est la même trajectoire. Tout est effacé, tout est converti, tout ce retournement de situation est le même pour chacune de nos vies, parce que Jésus a payé pour nous. Pour sa mission, Dieu choisit le plus incapable, parce que on est tous autant incapables que nous sommes justifiés et qualifié pour la mission que Dieu nous confie. Et finalement, en conclusion, pour effectuer sa mission, Dieu me choisit, moi, un incapable. Me choisit là où peut-être je suis incapable, peut-être ou là où je me sens pas qualifié. Non pas parce qu'il veut nous défier, nous voir trembler ou nous faire peur, mais parce qu'il nous aime, tout comme il aimait Jonas. Il veut nous faire cheminer. Et il me veut, moi, comme je suis, comme ouvrier, pour travailler pour lui. J'ai rien besoin de faire ou d'accomplir pour lui plaire, je lui plais, incapable que je suis, et il veut me faire cheminer. Il n'a pas besoin des gens qui se croient capables, qui se croient qualifiés, et qui veulent réussir par leur propre force. Il a besoin des incapables pour se glorifier à travers ça et pour nous faire cheminer de notre incapacité. L'incapable est responsable, je suis responsable d'accepter cette mission, d'accepter son amour, d'accepter relation avec lui, car il me laisse complètement libre d'accepter ou non. Et chaque incapable que nous sommes, il nous a justifiés et il nous qualifie personnellement. Et j'ai pas. Il nous a justifiés, on a vu ça tout à l'heure, je suis pleinement sauvé et justifié par Jésus à la croix. Et j'ai pas à craindre de n'être pas assez bien pour lui. C'est le seul geste qui compte. Mais il nous appelle à sa mission personnellement. Il nous appelle à amener nos manquements, nos poissons congelés depuis trop longtemps, nos failles, les choses qu'on lui cache. Il nous appelle à les sortir, à lui les présenter et à lui dire, OK, je viens même avec ces défauts. Je te sers là où tu me demandes, même si je ne suis pas qualifié. et il se glorifie à travers ça. Dieu ne nous promet pas une vie passive, pleine de facilité, en attendant vainement la suite et la fin. Ce serait un peu triste. Bien que nous avons le droit de nous réjouir de cette suite et fin, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, mais aussi qualifiés comme Jonas dans les missions pour lesquelles on ne se croit pas capable, pour annoncer la bonne nouvelle de notre Dieu miséricordieux et être ses témoins sur la terre. Ainsi, je lui laisse la place, il a la maîtrise de ma vie, dans les temps difficiles, dans la joie et dans les défis. Alors soyons encouragés d'avoir un Dieu qui nous choisit, même non qualifié, qui nous laisse libres par amour et qui a crucifié notre incapacité humaine à la croix. Je vous propose de finir par la prière.